Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va continuer Estelle Midi avec l'inquiétude du jour. Et c'est une inquiétude pour nos entreprises. Les faillites et mises en redressement judiciaire ont explosé. Dernière en date, celle de Duralex, qui pourrait licencier 230 personnes. Un exemple parmi d'autres, de nombreux secteurs sont aujourd'hui en difficulté en France.
Ouais, c'est ce que dit la dernière étude réalisée par la société Alliance Trade. En France, les défaillances d'entreprises ont terminé l'année 2023 à un niveau très élevé, un rythme qui s'est encore accéléré. Sur le dernier trimestre 2023, plus 37% de défaillances d'entreprises pour s'établir à 56 700 cas au total l'an passé. C'est 10% de plus qu'en 2019, la période de référence avant la crise Covid. Parmi les secteurs les plus touchés, le logement. Tout d'abord, qui représente une faillite sur 4 en 2023. Les dépôts de bilan ont été multipliés par plus de 2 l'an passé pour les maçons, pour les électriciens et pour les agences immobilières. Autre secteur en souffrance, le commerce de vêtements, on le sait, l'ameublement aussi, mais aussi l'hôtellerie-restauration. Et les perspectives ne sont guère encourageantes. Cette année, la France devrait dépasser le seuil symbolique des 60 000 faillites d'entreprises au cours donc de l'année 2024. En cause, la lenteur de la reprise économique, des contraintes prolongées en matière de financement, notamment le remboursement des prêts et des aides qui avaient été consentis par l'État lors du Covid, auquel il faut ajouter toujours une inflation, même si elle a ralenti, elle est toujours là, et la baisse de la consommation.
Et les prix de l'électricité aussi qui ont flambé. Alors, record de faillites en France, est-ce qu'il faut être inquiet pour nos entreprises, Perico Légas?
Mais c'est la conséquence de 50 années d'un néolibéralisme sauvage. On a jeté en pâture une partie de la production française industrielle et de biens de consommation à une concurrence totalement déloyale avec des importations qui étaient sauvages. Alors j'entends les bonnes âmes, la bouche en cœur, qui vous disent « Oui, mais si on ne fait pas ça, on a des contreparties, donc on va au suicide ». Sous prétexte qu'il faut continuer à importer des produits pas chers qui nous ruinent, qui tuent des emplois, qui sont des produits en plus en général dégueulasses, qui proviennent de pays où ils sont fabriqués dans des conditions inhumaines, avec des lois sociales qui sont atroces, et donc on fait notre fric sur le dos d'un prolétariat étranger.
Oui. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose dans le bâtiment, par exemple.
Ah oui, d'accord, mais indirectement les matériaux. Aujourd'hui, quand vous construisez une maison, quand vous allez faire une salle de bain ou une pièce, une cuisine, il y a presque plus de matériel français. Tout vient de l'étranger. On a tout sous-traité. On a confié à l'étranger la fabrication, la production et l'installation de notre pays. Et on se dit, voilà, on est en déficit. Le dernier qui restait, c'était les panneaux photovoltaïques. Important, les panneaux photovoltaïques.
Ah, c'est fini.
C'est l'avenir de l'énergie. Elle était étonnante, ça y est, elle a été liquidée. Et là, on a Duralex qui fait des verres, quand même, de cuisine, qui est à Orléans. Et bien là aussi, on préfère acheter du chinois parce que la grande distribution.
Pourtant, c'est pas cher, Duralex. Hein.
Et c'est pour ça.
On a tous eu des verres de cantine Duralex.
On a trouvé encore moins cher.
Vous voyez le petit numéro.
Et on dit, mais c'est pas grave.
Tu peux acheter 6
verres pour. Et ben voilà, tout ça, distribution qui fait la loi sur le marché, qui les 5 centrales d'achat contrôlent 90% du marché, ont libre cours, ils ont porte ouverte pour importer des produits de l'étranger à bas prix qui ruinent nos industries, qui ruinent notre production. Alors vous avez toujours des gens qui vont dire, évidemment, dans la Macronie et puis la social-démocratie et les partis de droite, mais non, pas du tout, c'était schématique, c'est pas vrai. Les résultats sont là. Et comme l'a dit le PDG de Stellantis, Monsieur Tavares, qui n'est pas un excité, on importe de Chine. Aujourd'hui, ce sont des moteurs électriques.
Bah, il produit en Chine, lui.
Il a dit ça se paiera. Il est obligé.
Ça se paiera. Il produit lui-même en Chine.
Il est obligé pour être compétitif. Il a dit ça se paiera dans les urnes. Et effectivement, messieurs, bravo, ça se paiera dans les urnes et vous le paierez cher.
Benjamin Hamard, est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire l'effort d'acheter français pour sauver nos entreprises?
Non, mais bien. Alors, ça, les relocalisations, le fait de bien évidemment encore une fois
curieux hein, relocalise.
Bah oui, ça fait des années pour le fait que certains syndicats dont le mien insistent sur la logique de réindustrialisation. Les exemples, ça, il y a des tas d'histoires de trucs complètement aberrants. Il y a quelques années, une usine Renault dans le Val-de-Marne spécialisée dans l'économie circulaire et donc qui avait reçu un prix sous le mandat de François Hollande, elle a été fermée. Donc il y a des discours sur la réindustrialisation et dans les faits, bien évidemment, on voit que les perspectives sont de plus en plus négatives. Là, à court terme, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Alors l'inflation a eu un effet délétère, mais quand vous savez qu'il y a 10 milliards d'économies prévues sur les dépenses publiques, ça concerne aussi l'investissement public. Et il y aura forcément sur un certain nombre de débouchés d'entreprises des conséquences très importantes. De la même manière, quand le gouvernement s'attaque régulièrement avec des mesures antisociales, ça attaque bien sûr le pouvoir d'achat des Français. Or, la consommation des ménages, c'est 60% du produit intérieur brut. Donc bien évidemment, on voit qu'il y a en fait un cercle vicieux entre des difficultés des entreprises et des difficultés sociales, parce que à travers justement le bilan de 2023, je crois que c'est 240 000 emplois qui sont menacés. Donc là, on est dans une impasse politique. Et la relance par la consommation est quelque chose qui est tabou pour les libéraux, et ça fait partie, ça fait pleinement partie du problème.
Les gens peuvent plus consommer, ils n'ont pas d'argent.
Ah ben, bien évidemment, et ça fait partie du ciel gris qui s'amoncelle.
Oui, mais aussi, excuse-moi, on n'arrête pas de nous dire « Ah, oh, c'est bien, il faut acheter sur Vinted, il faut de la deuxième main, etc. » Ben voilà. Mais quand tu achètes un t-shirt sur Vinted, c'est-à-dire que tu ne l'achètes pas dans un magasin. Donc ton petit magasin de quartier, après, il ne faut pas aller pleurer.
Sur l'histoire de Vinted, on oublie, il y a ceux qui disent « C'est bien, c'est écolo », et il y a ceux qui n'ont pas le choix, en fait. Et qui font, c'est tous comme de la même manière pour la sobriété énergétique. Il y en a qui le font par conviction et il y en a plein qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait. Et donc, la réalité, c'est que entre les difficultés sociales et les difficultés économiques, bien souvent, ça se tient par le coude. Et le gouvernement, à travers cette politique qui finalement, à chaque fois, attaque le pouvoir d'achat des Français, eh bien, il a une responsabilité pleine et entière dans ces difficultés qui s'annoncent.
Thierry Moreau, on va écouter l'antithèse.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour nos entreprises? On dresse un tableau sombre de la situation?
Il faut s'inquiéter. Simplement, quand j'écoute Perico qui dit que c'est 40 ans de néolibéralisme qui nous amène là, je suis désolé.
Et social-démocratie.
Terminer au moins une phrase?
Vas-y,
l'industrie textile de Boussac, on ne pouvait pas la garder, elle était plus rentable. L'industrie sidérurgique, on ne pouvait pas la garder, elle était plus rentable. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on veut réindustrialiser, alors c'est le grand mot de tout le monde, et on veut faire fabriquer du Doliprane en France, il va coûter plus cher. Donc de toute façon, ça va pas être très pratique et très facile pour le consommateur et pour les entreprises.
Plus cher que quoi?
Plus cher que de le faire produire à l'étranger.
Plus taxe,
On ferme les frontières,
comme
les taxes, vit tout seul, dans sa bulle, et on y arrive.
Comme le Japon et les États-Unis, qui sont les grands puissants.
Je pense qu'il faut être un petit peu plus subtil que ça, dogmatique.
Comme les libéraux.
Et expliquer que ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été soutenues artificiellement au moment du Covid, pas se masquer, et qui aujourd'hui se cassent la gueule. Elles auraient dû se casser la gueule il y a bien longtemps. On continue à avoir les effets de ça. On continue aussi à payer parce qu'il y a eu des aides qui étaient à fond perdu, et puis il y a eu des aides, c'était les PGE. Tu l'as très justement rappelé, Rémi. Et aujourd'hui, ce PGE, il faut le rembourser.
Donc c'était pas bien.
Et donc c'est une charge supplémentaire. Je ne dis pas ça. Je donne une explication fait qu'il y ait plus d'entreprises aujourd'hui qui se cassent la figure. D'accord. La dernière chose, c'est la fiscalité. Encore une fois, et là, je pense que je vais avoir un avocat avec moi, en l'occurrence Benjamin, c'est que la fiscalité des énormes entreprises qui permettent aujourd'hui, fiscalité globale d'une entreprise, on est à moins de 15% sur une énorme entreprise. On est beaucoup plus sur les petites entreprises et les TPE. Là, on a un vrai problème. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à taxer les grosses entreprises que les petites, et les petites qui tirent la langue sont surtaxées, on n'y arrivera pas. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est le néolibéralisme d'il y a 40 ans. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que de faire partir la sidérurgie là où c'était moins cher, de faire partir Boussac et l'industrie des vêtements ailleurs parce que c'était moins cher, sauf à s'enfermer et à rester seul dans son coin et à essayer de survivre.
Et rappelons quand même que les aides publiques de ces dernières années post-Covid,
elles sont sur les grosses.
Elles ont été siphonnées par les grosses. Moi, je rappelle, Carrefour, 82% de chômage partiel pour Carrefour. Et en réalité, derrière, on a juste. Et dans le même temps, on voit qu'il y a les entreprises du CAC qui font des bénéfices et des dividendes monstrueux, historiques. Plus 8000 points, c'est un record historique. Et que derrière, le pouvoir politique, il est neurasthénique. Il n'y a rien à faire. Bon. C'est comme ça, madame la marquise, circuler, il n'y a rien à faire.
Le crédit impôt recherche, il aide les grosses entreprises et pas les petites.
On a beaucoup d'auditeurs, des petits patrons, notamment, qui nous appellent au 32-16. On a Fabien qui nous appelle de Saint-Léger-les-Vignes et qui est gérant d'une entreprise dans le bâtiment. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous.
Et on en a parlé, Fabien, le bâtiment qui est certainement en ce moment le secteur qui se porte le plus mal. Est-ce que vous aussi, votre entreprise est en difficulté, Fabien?
Oui, comme beaucoup, mais après tout a été dit en deux points. Déjà, vous avez le Covid en lui-même qui a impacté tout le système économique et social. Mm-hmm. Et la dernière chose qu'a dit votre intervenant, c'est toujours pareil, on est taxé, surtaxé et retaxé. Faut savoir que, comme j'entendais Monsieur Thierry Moreau, aujourd'hui, ça me peine de l'entendre dire des choses comme ça, parce qu'à l'époque du Covid, on ne va pas revenir sur ses propos, qui nous impactaient au quotidien. Il faut savoir que, moi, le Covid, on m'a fermé ma société, j'ai perdu 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires. Le temps de la relancer, On a perdu encore 2 mois d'activité. J'avais une trésorerie qui se portait excellemment bien avant ce Covid. On n'a pas été aidé du tout. La seule aide qu'on a eue, et je vais le dire à M. Moreau, ce n'est pas une aide, hein, c'est un crédit qu'on nous a fait.
C'est un PGE.
Bien sûr, c'est un PGE.
Après, il y a encore l'État.
Ben oui, mais le PGE, c'est bien. Mais quand vous rajoutez des charges et des charges et des charges et de l'activité, parce que les gens, tout à l'heure, vous le disiez, le pouvoir d'achat, mais quand vous impactez le budget mensuel des gens, que ce soit l'EDF, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de problèmes aujourd'hui qu'on ne sait même plus par où commencer. Oui. Mais les gens, aujourd'hui, leur priorité, c'est quoi?
C'est de manger.
Se nourrir et vivre, entre guillemets. Mais les plaisirs, entre guillemets, d'une terrasse ou d'autres choses qu'on pouvait faire avant, bah aujourd'hui, ça passe au second lieu. Vous avez le pouvoir d'achat des retraités à l'époque, mais aujourd'hui, bah, il est impacté aussi. Donc, vous avez tout ce système aujourd'hui qui est caduque. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne voient pas au quotidien, nous, on le ressent, c'est une colère, la colère des gens. On ne comprend pas. On ne comprend pas, pourtant il y a des systèmes assez simples hein, sur les PME et TPE. Au lieu de taxer les charges patronales, on ne va pas répéter, il suffit juste de baisser, et non, cet impact-là, on va le rétroyer à nos salariés.
Et aujourd'hui, ça relancera la consommation, etc. Non, mais j'entends, mais... Et Fabien, là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir, ou est-ce que vous dites, bon, je vais rembourser... Ah oui, d'accord.
Non, mais bien sûr, et encore, je fais partie d'une société qui fonctionne correctement. Mais le pire dans tout ça, c'est tous ceux qu'on voit pas. Mais que vous allez avoir dans cette année et dans les 2-3 ans qui vont arriver, mais c'est une explosion. C'est, en fait, ça résume le particulier d'aujourd'hui. Les petites boîtes, bah, subissent ce qu'ils ont, les particuliers. Et vous avez le résultat de 20 ans, 30 ans, 40 ans de bêtises, et que ces gens-là, là-haut, n'ont pas de compte à rendre. Moi, j'ai des comptes à rendre à mon banquier, j'ai des comptes à rendre à tout le monde. Et ces gens-là, ils prennent des décisions, mais ils n'ont aucun compte à rendre. Alors, ça suffit au bout d'un moment. Notre société, si elle est mal gérée, ben, vous la pliez, c'est terminé. Hein. Et moi, on va venir me chercher ma maison. Hein. Et j'aurai pas de chômage, j'aurai rien du tout.
Parce que vous êtes indépendant, bien sûr.
On veut bien bosser, mais il faut qu'on soit aidé. Aujourd'hui, on n'est pas aidé. Hein.
Bah merci beaucoup Fabien, en tout cas pour ce coup de gueule, pour ce coup de fil. Voilà, Fabien qui est gérant d'une société dans le bâtiment. Alors il y a le bâtiment qui est en difficulté, puis il y a d'autres métiers qu'on ne soupçonne pas. Le métier d'apiculteur, tiens, on a Gilles qui nous appelle de Biote dans les Alpes-Maritimes et qui est apiculteur. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Biote avec NTE.
Et apiculteur, vous êtes en difficulté vous aussi Gilles?
Alors nous sommes en difficulté un petit peu, je rejoins ce qui a été dit jusqu'à présent. Effectivement, nous avons été... Nous vivons dans un pays qui est quand même merveilleux, qui est la France, où on nous a aidés. On nous a aidés et on se retrouve aujourd'hui face à des problématiques qui ont été grosso modo masquées pendant le Covid. Puisque notre entreprise et la mienne en particulier, nous avons perçu un certain nombre d'aides avec du chômage partiel. Mmh. Et nous avons été confrontés post-Covid à la dure réalité du monde de la concurrence. Et là où je modulerai par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'on signale souvent qu'il faut nous aider. Effectivement, le pouvoir politique devrait ou pourrait ou aurait dû. On peut en discourir pendant très longtemps. Moi, ma problématique est une problématique de confrontation, de concurrence déloyale. Oui. Ou de concurrence
Europe
par
de
rapport
l'Est,
à des produits.
Notamment.
Voilà, Europe tout à fait. Quand on me demande de vendre 1 kilo de miel à 4 ou 5 euros alors que mon prix de revient va être à 6 ou à 7 euros, ce n'est matériellement pas possible.
Bien sûr. Non, mais vous avez raison.
Ce n'est pas possible.
Et ce n'est pas du vrai miel.
Bah, le sien, si.
Le sien, oui, mais l'importé,
là, le politique ne peut pas œuvrer constamment et mettre un gendarme derrière tout le monde. C'est, à mon avis, tout un chacun, et moi le beau premier, avec ma carte de crédit, ce petit bout de plastique qui va me faire décider soit d'acheter français, un petit peu plus cher, c'est vrai, mais tôt ou tard, si je n'achète pas français, à ce moment-là, je vais mettre en péril ma propre activité, parce que la réinjection circulaire dans l'économie ne se fait pas.
Bien sûr.
Mais pardon, mais un gendarme derrière qui vous voudriez? Derrière le consommateur?
Mais non, que tu puisses plus avoir cette concurrence déloyale de l'étranger.
Voilà. Mais monsieur, il y a des pays où les miels qui sont d'abord des faux miels sont taxés, il n'y a aucun problème. Le libéralisme est préservé, il y a juste une taxe qui corrige la concurrence déloyale qui en plus est frauduleuse. Et vous serez protégé. Le vrai miel, c'est le prix que vous le vendez, c'est le prix normal. Oui. Alors ensuite, il y a du miel de merde qu'on importe et que la grande distribution importe en quantité aux consommateurs que c'est du miel. Il y a marqué miel dessus.
Non, la grande distribution met en vente, mais qui est-ce qui achète? C'est vous et moi. Donc à un moment donné, il faut que tout un chacun reprenne sa responsabilité.
Mais c'est signalé comment, monsieur ?
Le miel en France, monsieur, je suis profondément navré, le miel, quand il y a marqué miel, la définition légale est que c'est une transformation qui est due par une abeille.
Qui le vérifie ?
On ne peut pas dire que le miel qui est vendu n'est pas le miel.
Ils savent pas, les gens.
Mais non, mais en fait, il suffit de regarder le prix. Si t'as un miel à 1 euro, tu vois même que c'est pas assez cher.
Qu'est-ce que ce miel-là fait sur les rayons de la distribution française ?
Non, mais ça, c'est dans la grande distribution, t'as essentiellement des miels européens qui sont des miels. C'est les miels chinois qui sont faux. Les miels ukrainiens ou les miels roumains, ce sont des vrais miels, mais ils sont produits moins cher. Et donc, c'est un problème.
Après, voilà. Et Gilles, il est aussi en difficulté parce que les consommateurs, mais est-ce qu'ils peuvent faire autrement ?
Non.
Voilà. C'est bien le problème. Mais surtout, voilà. Et ben, quand t'as un miel à 8 euros et un miel à 1 euro, ben, si t'as pas d'argent.
Le miel à 1 euro n'a rien à faire là, il n'a rien à faire en Europe.
Je suis d'accord, mais en fait, c'est une responsabilité qui est multifactorielle,
en fait.
Merci beaucoup, Gilles, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on a beaucoup de messages, beaucoup de petits patrons, justement, qui nous écrivent sur l'appli RMC Rémi.
Clément, notamment, qui nous écrit. Moi, je dirige une petite entreprise. C'est vrai que c'est dur. En ce moment, je vois de plus en plus autour de moi de collègues qui tirent la langue. Tout est combiné pour que ça n'aille plus. Il faut rembourser les aides de l'État. On en a eu le droit et je m'en félicite au moment de la crise Covid. Mais aujourd'hui, il faut rembourser ces aides au moment même où les prix de l'énergie explosent, au moment même où les gens sont toujours confrontés à l'inflation et où ils consomment moins. Ce n'est pas tenable.
Notre invité sur ce débat, c'est Pascal Delima, qui est économiste. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des témoignages de petits patrons qui ont un peu le couteau sous la gorge. Est-ce qu'on a raison d'être aussi alarmiste ? Est-ce que les jours, les mois qui nous attendent vont être encore plus sombres ?
Bah, comme d'habitude, moi, je vois bien sûr des raisons pour s'inquiéter. J'en vois trois principalement, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Heureusement, sinon il n'y a plus qu'à se suicider. Effectivement, bon, quand on regarde statistiquement, indiscutablement, en tout cas sur les défaillances d'entreprises, on s'approche quand même du niveau élevé déjà de 93 avec les crises bancaires, mais aussi plus récemment des niveaux de la décennie 2010-2019 où on avait effectivement une croissance morose. Et donc voilà, historiquement, on voit bien que le niveau de défaillance d'entreprise avoisine peu à peu le niveau pré-Covid. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la France accentue un peu cette tendance par rapport à l'Europe. J'ai regardé un petit peu sur le reste de l'Europe. On a aussi une hausse des défaillances d'entreprise un petit peu partout, mais malheureusement, la France accentue davantage ces défaillances d'entreprise. Donc, c'est plus fort en France. Voilà, en variation par
rapport
à la Belgique, à l'Allemagne. Donc, et les Pays-Bas, l'Italie s'en sortent plutôt bien. Donc c'est un petit peu, encore une fois, c'est un peu comme le défi.
C'est parce qu'on avait plus d'amortisseurs que la reprise est moins forte.
Oui, tout à fait. La reprise est moins forte. L'Italie a un marché immobilier qui est meilleur. La croissance est plus élevée en Italie. Aux Pays-Bas, il y a moins de retard de paiement. On a une petite tendance qui se renforce en France. Et puis il y a un dernier point que je voulais souligner pour les aspects négatifs, c'est que on a des grandes entreprises qui commencent aussi de plus en plus à faire faillite. Donc voilà, ça reste majoritairement bien sûr des micro-entreprises quand même, des petites entreprises, 65%, mais on a une hausse des grandes entreprises aussi en 2023, des faillites de grandes entreprises.
Vestimentaire, Duralex.
Voilà pour les trois points négatifs. Ouais.
Et quelles sont les raisons, on va dire, d'espérer, Pascal Delima, comment est-ce qu'on peut faire ?
Mais oui, moi j'aime bien. Alors il y a les raisons d'espérer, les secteurs concernés, les causes, etc. Vous en avez parlé, mais les raisons d'espérer, c'est que d'après les dernières données que j'ai pu regarder un petit peu, Stérès, Banque de France, INSEE, c'est que les très jeunes entreprises résistent un petit peu mieux quand même. La jeunesse est importante aussi pour l'avenir. Et certaines activités repassent un peu dans le vert. Il faudrait voir au détail.
Je vous sens pas non plus hyper optimiste, Pascal Delima, quoi.
Non, mais il y a certaines entreprises, il y a les créations d'entreprises. N'oubliez pas, il y a 1 million encore de créations d'entreprises en France.
Ça c'est chouette.
Mais il faut parler de la création d'entreprises qui reste aussi élevée. Et on voit clairement, parce qu'on en parle peu, un processus de transformation de l'économie. Nous sommes dans les créations d'entreprises partout sur le Made in France, sur l'industrie du futur, sur la mobilité du futur,
sur
les métiers du futur, me fait penser qu'on est dans un processus de destruction créatrice. Je suis persuadé que nous vivons une transformation et qu'il y a une...
C'est du Schumpeter.
Il serait temps.
Il
serait temps.
Il va falloir s'adapter.
Du un cycle.
Oui.
Il va falloir s'adapter. Mais merci beaucoup, Pascal de Lima, voilà, pour cette note. Allez, un petit peu positive.
Oui, une lueur d'espoir.
Ouais, une petite lueur d'espoir sur nos entreprises. Effectivement, même avec l'IA, il va y avoir des nouveaux métiers créés. Mais à mon avis, il va y en avoir quelques-uns qui vont être détruits. Aussi, merci Pascal de Lima. On va terminer avec Maxime, qui nous appelle de Toulouse et qui est gérant d'une société de nettoyage industriel. Et je crois que c'est une société qui est toute jeune, Maxime.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Ouais, c'est une société qui a 2 ans et demi. Donc je rebondis sur les propos de l'économiste précédent sur l'avenir des nouvelles sociétés. Mais globalement, moi j'ai monté ma structure il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis en train de me poser la question de savoir si je ne vais pas la plier pour 3 raisons. Bah ouais, pour 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les clients ont de plus en plus de mal à payer les factures. Donc on fait ce qui vient d'être dit par l'économiste. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients nationaux, grands comptes, qui ont sur un plus de 90 à 120 jours de paiement de facture. Donc, moi, je ne suis pas banquier sur une petite structure. Donc, ça pose question quand même sur l'économie de notre pays. Deuxièmement, on a quand même l'État qui ne nous aide pas beaucoup avec toutes les charges sociales qu'on paye sur nos salariés et qui, de surcroît, en plus, se plante quand ils nous prélèvent la TVA. Ils nous prélèvent le même jour 3 ou 4 fois le montant de la TVA. Donc, ça n'arrange pas les trésoreries des boîtes. Donc, globalement, ouais, c'est super de créer de l'emploi, de créer des structures, de se démener pour créer de la richesse dans notre pays. Mais en fin de compte, on a un État qui n'est pas facilitateur et aujourd'hui, on a un système économique qui fait qu'on est quand même en difficulté de se faire payer nos factures par nos clients. Donc, c'est hyper complexe de tenir la tête hors de l'eau et de maintenir le cadre. Donc, ouais, au bout de 2 ans et demi, je suis en train de me poser la question de l'avenir. Donc,
mais vous feriez quoi, Maxime, si vous fermiez votre entreprise?
Eh ben, on fera autre chose, on retournera dans le salariat, à condition de trouver du boulot, c'est pas trop la difficulté, mais quand on est entrepreneur dans l'âme et qu'on a envie de créer des trucs, et que la première année où j'ai créé ma structure, j'ai eu du bénéfice, je me suis dit cool, c'est la première année, je vais être exonéré d'IS, mon cul, excusez-moi l'expression, je me suis pris 3000 ou 4000 balles d'impôts sur la société direct la première année d'activité. C'est pas facilitateur, l'État nous accompagne pas. Il nous détaxe patronales, des charges sociales, derrière la TVA, et en plus derrière, il faut en plus qu'on paye de l'IS la première année d'activité quand on arrive à sortir un peu de chiffre d'affaires.
Oui, IS, c'est impôt société,
ouais. Ouais, mais c'est la folie, sans déconner. Donc aujourd'hui, moi je suis plutôt positif en l'avenir, mais on se pose quand même des question de savoir l'entrepreneuriat, c'est quand même hyper compliqué, quoi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.
Eh ben merci Maxime de nous avoir fait part de vos difficultés alors que vous êtes une toute jeune entreprise et que vous pensiez déjà dégager des bénéfices au tout début, mais vous êtes trop imposé, c'est ce que vous nous dites aussi. Maxime, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, est-ce qu'on est inquiet pour la santé de nos entreprises, Rémi?
Oui, ben, la plupart le sont, comme Michel qui nous dit bien entendu qu'il faut s'inquiéter de nos entreprises, trop de concurrence, marché saturé, même redevenir salarié car ma micro-entreprise ne me suffit pas à me verser un salaire est compliqué pour moi.
Bien sûr.
Le sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi.
Faut-il s'inquiéter pour nos entreprises? C'est le oui qui l'emporte très très majoritairement. C'est oui pour 87% de ceux qui sont
pour nos réseaux sociaux.